Galaxy 98.5.
Aujourd'hui sur Radio Galaxy, on reçoit un artiste hors du commun. Il est saxophoniste, compositeur et créateur de concerts sous hypnose. Geoffrey Secco est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour Lorient, bonjour à tous.
Vous avez inventé un concept unique au monde, les concerts sous hypnose. Vous êtes en tournée en ce moment partout en France, en Belgique et en Suisse avec votre spectacle Origine. Et vous faites une halte le 19 février à Saint-Aurens, concert évidemment sous hypnose. Et vous allez de suite nous rassurer en nous disant que non, ce n'est pas dangereux, on ne va pas s'endormir ou entrer en transe. Ce n'est pas du tout le but de cette soirée, Geoffrey. Hein.
Alors non, ce n'est pas du tout dangereux, ça c'est sûr, mais par contre, je pense que vous allez rentrer en transe. Hein. Il y a plusieurs mots hein, pour parler d'hypnose, on peut dire rentrer en état d'hypnose, rentrer en état de conscience modifiée, rentrer en transe. Bon, la transe c'est connoté un peu tribal, on peut imaginer des gens qui dansent, tout ça. Mais ouais, il y a plein de mots pour dire qu'on va, en fait, on va élargir notre conscience et accéder à une réalité qui est pas celle à laquelle on accède d'ordinaire, bien que les états hypnotiques, c'est des états auxquels on est, nous, en tant qu'êtres humains, on est sujet régulièrement à ça. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plusieurs fois par jour où on est dans des petits états d'hypnose, vous savez, c'est ces moments où on est un peu dans la lune et on se retrouve ailleurs, dans un souvenir ou dans le futur. C'est ce qu'on appelle de la dissociation. Et donc, on est un petit peu en dehors de son corps, un peu en dehors de la réalité. Ben ça, c'est un état d'hypnose. Et en fait, l'hypnose, elle fait qu'amplifier ça. Et alors, l'hypnose de spectacle, ça va être dans un but de divertissement. Donc, la personne va se retrouver à faire la licorne, à faire plein de trucs drôles. Et puis, ben, l'hypnose thérapeutique, c'est celle que j'utilise, et ben, ça va être revoir une situation, trouver de nouvelles ressources, voilà, dépasser une addiction ou un comportement qu'on a envie de changer, etc.
Donc, c'est-à-dire que tous les jours, en fait, on fait des choses et sans s'en rendre compte, on pense à autre chose, on ne se rend plus trop compte de ce qu'on fait. Ça peut être un état d'hypnose.
Ah ouais, bah c'est un état d'hypnose. Par exemple, je pense que c'est certainement arrivé de prendre la voiture, de conduire, et puis d'un coup, vous réalisez que vous êtes arrivé chez vous et vous n'étiez pas complètement là, parce que vous connaissez le chemin, parce que vous savez parfaitement conduire une voiture, c'est devenu automatique. Vous savez que s'il y a un danger qui arrive, il y aura quand même les réflexes qui vont prendre le pas dessus. Ouais, exactement. Donc, naturellement, on s'autorise des fois des moments d'hypnose, d'absence, de rêverie.
Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Geoffrey Secco, vous êtes saxophoniste et compositeur. Vous avez accompagné de nombreux artistes. On peut citer Pascal Obispo, Charles Aznavour, Robbie Williams, Patricia Cass, Lady Gaga, pour n'en citer que quelques-uns. Vous avez été membre de l'orchestre de Danse avec les Stars pour la 3e saison. Ça fait plus de 10 ans que vous faites ce métier-là. Il faut nous expliquer comment on passe d'accompagnateur d'artistes, on va dire, au concert sous hypnose.
Alors oui, c'est vrai que moi j'ai toujours été musicien. Donc j'ai commencé la musique à 8 ans avec un super prof de sax. Et puis assez rapidement, je me suis dit que j'avais envie de devenir saxophoniste quand j'étais ado. Et je rêvais justement de jouer au Stade de France avec des stars. Quand je voyais les artistes passer à la télé, je me disais « Oh là là, j'ai trop envie de faire ce genre de truc et tout ». Donc moi je suis originaire d'Aix-les-Bains et je suis monté à Paris pour faire un conservatoire, pour progresser. Et puis petit à petit, je me suis fait un réseau. Je suis parti aussi à Berklee, qui est donc la meilleure école au monde pour faire du jazz. C'est à Boston, aux États-Unis. Mm-hmm. Et quand je suis revenu, bah, c'est vrai que j'ai commencé à faire des concerts de plus en plus importants. Donc j'ai commencé par faire une tournée avec Tito Puentes, qui est un peu une légende de la salsa, qui est disparu maintenant il y a 3-4 ans. J'ai joué 10 ans dans son orchestre. Et dans cet orchestre-là, il y avait plein de cuivres qui, eux, étaient plus âgés que moi. Et petit à petit, bah, ils m'ont intégré, en fait, parce que ça marche beaucoup comme ça, un petit peu par cooptation. Et donc, la première grosse tournée que j'ai faite, c'était en 2007. Donc, j'avais 27 ans et c'était avec Obispo. Et puis, à partir de là, bah, j'ai commencé à jouer pour La Nouvelle Star, après pour Patricia Cass en 2009, là où c'était une énorme tournée. On a fait plus de 200 concerts. Et après, je me suis retrouvé à jouer au Stade de France avec Yannick Noah. J'avais écrit ses arrangements. Et voilà, Aznavour. Enfin, après, bah, j'étais dans la place, on va dire. Et en même temps, il y avait le côté spirituel un petit peu qui me manquait, le côté thérapeutique, parce que j'ai toujours été intéressé par la thérapie, par la psychologie, par la conscience, par tous ces trucs-là. Mm-hmm. Peut-être parce que quand j'ai commencé le sax à 8 ans, Justement, mon prof me parlait de visualisation pour m'entraîner à passer les auditions. Vous savez, quand on est au conservatoire, on doit passer des auditions chaque fin d'année pour voir si on passe au niveau du dessus.
Ouais, tout à fait.
Puis lui m'avait préparé, il m'avait dit, bah, écoute, tu vois, l'audition, ce que tu peux faire pour te préparer, bah, c'est visualiser comment tu vas monter sur scène, comment tu vas t'accorder, comment tu vas saluer le public. Et en fait, moi, tous les soirs, je m'entraînais. Et en m'entraînant, je voyais que je faisais des erreurs. J'oubliais de saluer le public ou je visualisais mal mon entrée sur scène. Et j'ai compris que la visualisation, en fait, une bonne visualisation, c'est une visualisation où on fait les mêmes erreurs que dans la réalité, finalement. C'est pas imaginer un truc parfait, c'est imaginer ce qui pourrait se passer dans la réalité. Et ça, ça a été une énorme clé. Et donc, j'ai toujours visualisé mes trucs. Bref, au bout d'un moment, quand j'avais la trentaine, je me suis dit, mais voilà, il manque cette dimension-là. Et donc, à 35 ans, j'ai eu cette idée de faire des concerts sous hypnose. Et voilà.
Alors, pour raconter le début de l'histoire, vous êtes parti en voyage en Amazonie où vous avez rencontré un médecin chaman français. C'est ce qui vous semblait être la source de ce concept. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce voyage et ce que vous en avez appris?
Alors, ouais, effectivement. Quand j'ai eu cette idée de concert sous hypnose, je me suis dit, je vais voir qui fait des concerts sous hypnose. Et en fait, personne ne faisait de concert sous hypnose. Alors, je me suis dit, je vais aller rencontrer ceux qui font des trucs qui ressemblent. Et pour moi, c'est les chamans parce qu'ils, justement, ils mélangent musique et état de conscience modifié dans un but de thérapie ou de connaissance de soi ou de d'évolution, etc. Mmh. Et en même temps, c'est un petit peu effrayant de se dire « je vais aller en Amazonie rencontrer un chaman parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber ».
C'est vrai, c'est particulier, oui.
Ouais, c'est vraiment particulier. Et par concours de circonstances, j'ai un ami qui me dit « écoute, moi je connais un chaman, mais en fait c'est un médecin français, donc un mec très sérieux, qui s'appelle Jacques Mazy, qui a, je sais pas à l'époque, il devait avoir 65 ans. Mmh. Et en fait, ce gars-là avait monté un centre de désintox. Et il soignait donc les personnes qui souffraient de toxicomanie, d'addiction, il les soignait donc à base de, on va dire, de médecine et de psychologie occidentale, donc un truc, on va dire, qui est approuvé par l'académie.
Okay.
Mais aussi avec la médecine traditionnelle amazonienne, et qui est particulièrement l'ayahuasca, donc un très fort psychotrope. Et on sait que aujourd'hui il y a des médecines qui utilisent les psychotropes, donc le LSD, l'ayahuasca, la psilocybine, enfin voilà, et que ça a été étudié dans les années 50, puis ça a été interdit dans les années 60, et là, depuis une dizaine d'années, c'est à nouveau très au-devant des études, et c'est toujours interdit en France, mais c'est très étudié en Belgique, en Suisse et aux États-Unis, où c'est totalement autorisé, parce qu'il y a d'excellents résultats sur les addictions. Mmh. Bref, ce gars-là avait créé un centre il y a une trentaine d'années. Et pour financer son centre, eh ben, de temps en temps, il proposait des séminaires d'initiation à des gens comme vous et moi, qui ont envie de découvrir, ce qui fait que du coup, ça finance l'économie du centre et ça permet donc de venir en aide aux gens démunis qui souffrent d'addiction, etc.
Génial.
Ouais, donc moi j'y vais dans ce cadre-là, très rassuré, parce que je me dis, bon, le mec, il est médecin, il a toute une équipe de médecins autour de lui qui sont, on veut dire, à la pointe de la recherche sur la médecine, donc ça s'appelle la médecine psychédélique. Et donc, ouais, j'y vais dans ce cadre-là, et en fait, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que donc, ils appellent ça des cérémonies, hein, le fait de prendre de l'ayahuasca. Donc, effectivement, il y a des chants. Et ces chants-là, en fait, quand on a pris de l'ayahuasca, vont venir entrer en résonance avec nous ou pas. Par exemple, le chant de l'amour maternel, si on a manqué un petit peu d'amour maternel et qu'il y a un truc qui n'est pas réglé, et c'est souvent le cas, hein, eh bien, ça va créer des visions, ça va créer des sensations, ça va créer des sons qui vont être déformés et qui vont nous emmener, nous guider dans une introspection jusqu'à découvrir finalement à quel moment ça a coincé dans notre histoire personnelle et on vient régler ça. Mais c'est incroyablement efficace.
Oui, oui.
Et moi, voilà, ce jour-là, je suis justement un peu la vision de mes concerts puisque j'y allais pour ça. Voilà, j'ai vu que ça allait être génial, que les gens allaient adorer, que ça allait faire du bien au monde, que ça allait me faire du bien à moi. Mmh. Et donc, dès mon retour en octobre 2015, eh ben, j'ai lancé les premiers concerts. Et c'est vrai que ça a assez bien marché. Et puis après, c'était un long travail pour faire connaître ça, quoi.
Et alors, est-ce que le saxophone a quelque chose en plus de particulier pour entrer en hypnose ou pas forcément?
Alors, je dirais même qu'il a quelque chose en moins, en fait.
Ok.
Parce que le sax, c'est un instrument qui est quand même très connoté. Et il y a des gens qui adorent le sax, d'autres qui n'aiment pas du tout, parce que le sax, c'est vrai, quand on pense au sax, on pense soit au jazz des années 40-50, soit à la variété des années 80, soit à Ibiza des années 2000. Mm-hmm. Mais c'est un instrument qui tout de suite suscite un imaginaire. Donc du coup, le sax, je le traite comme un instrument traditionnel. J'essaie de réinventer mon jeu et de sortir des clichés. Ça a été par utiliser un micro qui est unique au monde, qui permet de jouer des effets sans que ça parte en larcène, tout ça, enfin, c'est assez technique. J'utilise aussi des pédales d'effets, ce qui se fait maintenant depuis quelques années au sax, mais il y a 10 ans, beaucoup moins.
Ok.
Après, ce qui est intéressant, je trouve, avec le sax, par contre, c'est que comme je peux pas parler et jouer en même temps, contrairement au piano ou à la batterie, le fait de faire du sax permet de moins parler et ça laisse aussi plus de place aux suggestions, puisque l'hypnose, c'est beaucoup à base de suggestions. Mmh. Et la suggestion, pour qu'elle soit reçue par la personne qui l'entend, souvent, il y a besoin de temps. Vous voyez, si, par exemple, si je vous pose une question tout de suite, bah, vous allez avoir un temps de réflexion qui va être d'une seconde, deux secondes.
Bien sûr.
Et c'est un moment où je peux faire un peu de sax, ce qui va faire que la suggestion va mieux passer. Donc, du coup, j'ai développé aussi un peu ce style d'hypnose, qui n'est pas l'hypnose, on va dire, conventionnelle, où la personne va parler.
Mm-hmm.
Là, il y a un temps un peu plus artistique.
Le jeudi 19 février, concert sous hypnose du saxophoniste Geoffrey Secco qui est avec nous. C'est à 20h30 à la salle Antigone de Saint-Aurens avec le spectacle Origine. Dis-nous en plus, qu'est-ce qu'on va vivre et qu'est-ce qu'on va entendre ce soir-là à Saint-Aurens?
Alors, donc, l'Alcigone, c'est vraiment une salle que j'adore et puis qui est très fidèle. Donc, j'ai joué mes deux précédents spectacles, donc Le Voyage du Héros et Au-delà. Et là, cette année, on revient avec un nouveau spectacle qui s'appelle Origine. Et donc, Origine propose d'explorer ce qui pourrait se passer avant la vie. Et donc, voilà, là, ça propose justement d'explorer ça, ou d'explorer en tout cas ce qui est de l'ordre du transgénérationnel, donc c'est-à-dire les mémoires émotionnelles qui pourraient nous parvenir de nos lignées familiales, etc. Donc, pour rentrer un peu dans le scénario, le public va aller explorer une croyance qui pourrait limiter aujourd'hui. On a tous des croyances qui nous limitent, genre « je suis pas assez bon, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop gros, je suis trop petit ».
Oui, tout à fait.
Et donc, on va explorer ça parce qu'on sait aujourd'hui que ce qui nous limite, c'est plus ce qu'on se raconte que réellement ce qu'on a vécu. Donc, le récit de notre vie est plus important que réellement ce qu'on a vécu dans notre vie. En fait, le public va explorer son récit et il va aller justement explorer une vie antérieure qui va lui permettre de modifier son récit et de se raconter autre chose sur sa vie. Parce que on peut pas changer le passé, on peut pas changer notre vie. Par contre, on peut changer ce qu'on se raconte dessus. Et donc, les gens ressortent du concert, certains vraiment en ayant un autre récit. Et c'est génial parce que c'est comme ça qu'on peut évoluer en fait dans la vie. Hein.
Et alors, comment vous comptez faire pour mettre le public sous hypnose? Est-ce qu'on peut s'attendre à une mise en scène un peu spéciale?
Ouais, alors là, c'est vrai que c'est une mise en scène particulière parce que les deux précédents concerts, les gens avaient les yeux fermés quasiment tout le long. Et donc, rentrer en état d'hypnose avec plein d'exercices que je leur proposais, et c'était beaucoup les yeux fermés avec de la respiration, des gestes, plein de techniques. Et là, j'avais envie de me surprendre un peu et puis aussi de proposer quelque chose de nouveau au public. Alors là, les gens vont pouvoir rentrer en état d'hypnose les yeux ouverts. On a créé un truc pour qu'il y ait un visuel qui soit super beau. On a mis un écran de tulle devant nous. Donc le tulle, c'est une matière qui est un petit peu transparente.
D'accord, oui.
Donc quand c'est pas éclairé, le public ne voit pas qu'il y a un écran devant nous. Donc c'est comme un drap qui tombe, mais qui est maillé et qui est transparent. Et il y a un autre écran qui est derrière nous. On a deux vidéos proches. Chaque vidéo proche projette des choses différentes, on va dire.
Mm-hmm.
Et du coup, quand c'est projeté, on se retrouve comme dans un aquarium un peu. Mmh. Donc le public voit qu'il y a quelque chose devant nous, il y a quelque chose derrière nous, tout ça en interaction, nous on est au milieu. Et là, je propose au public de fixer un point. Enfin, il y a plein de choses qui se font les yeux ouverts. C'est des visuels qui ont été créés par ma petite sœur Elsa Secco, qui est une motion designeuse multiprimée au festival de films d'animation d'Annecy, d'Hollywood, de Berlin. Enfin, elle est assez incroyable, elle a fait des visuels de fou. Et puis donc, il y a un technicien qui projette ses vidéos en temps réel et qui les manie aussi en temps réel. Et il y a deux autres musiciens sur scène avec moi. Sébastien Heinz, qui est un clavier guitariste avec qui j'ai produit tout l'album, donc l'album Origine là, qui vient de sortir.
Mm-hmm.
Et David Lombardi, qui est un violoniste italien, qui a roulé sa bosse en Écosse, en Inde, qui joue du violon à la fois de façon classique monstrueuse et en même temps qui peut jouer ethnique. Et donc, par son jeu, vraiment, il emmène le public dans plein d'univers différents. Et voilà, et donc là, il y a une alternance qui est proposée au public d'ouvrir les yeux, de regarder les visuels, de se laisser inspirer par les visuels, puis de les fermer, de plonger plus dans un monde intérieur.
Alors, une question que beaucoup de personnes doivent vous demander, est-ce qu'on est tous réceptifs à l'hypnose?
On est tous réceptifs, mais à des degrés différents. En fait, être hypnotisé ou s'auto-hypnotiser soi-même, c'est normal, ça fait partie de notre humanité. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a même des psys et des hypnothérapeutes qui pensent que l'hypnose, c'est même se déshypnotiser. C'est-à-dire qu'on serait tous quelque part en état d'hypnose. Ouais. Comme je vous disais, on se raconte tous des trucs sur notre vie. On est rarement dans l'instant présent. On est tout en train de penser au passé ou de penser au futur, mmh, et à se raconter plein de trucs sur notre passé, plein de trucs sur notre futur. Donc, quelque part, c'est une auto-hypnose. On vit tous dans une auto-hypnose. Après, on rajoute par-dessus les médias qui vont évoquer et générer plein d'émotions alors que c'est des trucs qui se passent à 10 000 km de là et quelque part, on n'a rien à voir avec. Ouais. Je dis pas qu'il faut pas s'intéresser à ce qui se passe dans la planète, mais ce que je veux dire, c'est que d'un coup, on se retrouve transporté en Ukraine ou à Gaza alors qu'en fait, réellement, on est à Toulouse et que tout va bien. Ouais. Donc, on est dans une auto-hypnose permanente et l'hypnose serait de les déshypnotiser pour aller vraiment rencontrer notre vraie réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se raconte, de quoi on souffre et quelles ressources on a pour que ça aille mieux. Donc, ouais, on est tous hypnotisables. Après, là, par exemple, il va y avoir 600 personnes à la Tigone. Et bah, sur les 600 personnes, il y a 80% qui vont foncer dans l'expérience, et puis 10% qui vont faire un énorme trip, et puis 10% qui, eux, bah, ça va pas se passer grand-chose parce que c'est pas le bon jour, c'est pas le bon moment, ouais, ils sont trop occupés, voilà quoi.
Alors je m'appuie sur votre communiqué de presse, je cite « Chaque note devient une porte vers l'inexploré, invitant le public à fermer les yeux, à s'évader et à se connecter à son inconscient », ce qui signifie que chacun va vivre une aventure différente, depuis son fauteuil, on ne va pas monter sur scène ni rien. Hein.
Oui, c'est ça, et c'est une aventure qui est multisensorielle, donc il y a des personnes qui vont voir beaucoup de choses, qui vont avoir des visions, d'autres ça va être plus de l'ordre du ressenti, du kinesthésique. Mm-hmm. Il y a aussi beaucoup de témoignages qui disent que pour certains c'est des parfums, et ils vont se retrouver dans un jardin, ils vont retrouver le parfum de leur grand-mère, ils vont avoir des messages de cet ordre-là.
Quels sont les retours du public qui sont venus voir votre spectacle, Geoffrey Seco?
Moi, j'ai des retours magnifiques, hein, de gens qui comprennent des choses sur eux. Bon, là, en plus, on sort de 4 dates en Belgique, donc j'ai beaucoup de messages, de témoignages. Mm-hmm. Il y a quelqu'un là qui a perdu son mari là l'été dernier.
D'accord, oui.
Qui a pu le revoir.
Ok.
C'est bien métaphorique, hein. C'est pas du tout de l'idolité ou contacter les esprits, ça n'a rien à voir avec ça. Mm-hmm. Mais voilà, sous forme métaphorique, bah, elle a pu le revoir, elle a compris qu'il était bien où il était. Il a dit « Non, mais t'inquiète pas, moi, tout se passe super bien, je suis là pour toi, refais ta vie. » Enfin, mmh. En fait, elle a eu plein d'autorisations qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Et bah, ça lui a fait un bien fou. Et c'est ça qui compte au final. C'est le récit qu'on peut se raconter. Donc peut-être que jusqu'à présent, elle se racontait qu'elle avait perdu son mari, que c'était horrible. Bah là, ça va un peu mieux. Mmh. Donc c'est génial. Et il se passe aussi pas mal de synchronicité. Mmh. Il se passe beaucoup de synchronicité. C'est-à-dire que, par exemple, un coup, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit « Bah voilà, je sors du concert. » Au concert, les gens, je leur demande de poser une intention. Donc lui, il pose l'intention de reparler à sa famille. Il était brouillé avec toute sa famille. Et il les avait perdus de vue depuis des années. Et il sort du concert, il veut allumer une cigarette, il prend une cigarette, il trouve pas de feu, il se retourne pour demander du feu, et là, il tombe sur son cousin.
C'est incroyable, ça, quand même.
Ouais, et c'est ça qui est génial avec l'hypnose. Et Jung, justement, il en parlait beaucoup, des synchronicités. C'est lui qui a créé ce mot-là et qui a posé un mot sur un concept qu'on a tous vécu. Hein. C'est, par exemple, on pense à quelqu'un, tac, il appelle dans la seconde. Bon, voilà, ça, c'est des synchronicités. Mm-hmm. Donc, ça, on a tous vécu ça. Bah, c'est génial, parce que c'est ces moments-là où on se sent un peu vivant et on se dit, ouais, il y a quand même une magie. Et je pense qu'on a besoin de se connecter à cette magie-là.
Eh bien voilà, c'est une expérience unique à ne pas manquer le jeudi 19 février. C'est à 20h30 qu'il faut vous rendre à la salle Antigone de Saint-Aurens. Pour tout renseignement et pour les réservations, vous allez sur le site internet geoffreyseco.com. On peut vous suivre également sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube pour voir la petite bande-annonce. À partir de quel âge c'est accessible, Geoffrey ?
Moi, je dirais 14-15 ans. Voilà, c'est un spectacle qui dure 1h30. Qui parle un peu de spiritualité, donc il faut être capable de rester 1h30 assis et puis de s'intéresser à ce genre de sujet.
Voilà, pour un tarif de 38 € le jeudi 19 février, 20h30, concert sous hypnose à la salle Antigone de Saint-Aurens, avec, vous l'avez entendu, le saxophoniste et compositeur Geoffrey Seco. On vous remercie.
Merci, Lorient, merci beaucoup. Aussi, je vais jouer en avril au Bascala, à Toulouse. C'est pas un concert sous hypnose, parce qu'on l'appelle pas comme ça pour se différencier. On appelle ça Ulysse. Et donc, on va proposer aux gens d'explorer le mythe d'Ulysse sous forme de voyage antérieur. Et ça va être en avril. Et c'est sur mon site aussi, les infos.
Bon, mais très bien. Quel jour en avril ?
C'est le 4 avril à Bruguière, au Bascala.
Eh bien voilà, le rendez-vous est pris le 4 avril à Bruguière. Merci à vous, Geoffrey Seco.
Merci Lorient, merci beaucoup et merci à tous d'écouter cette émission.
Avec grand plaisir, très bonne journée à vous.
À vous aussi.
Radio Galaxy, c'est la radio que j'écoute.